France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. 24 heures après l'une des attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années aux États-Unis, la police américaine recherche toujours d'éventuels complices à l'auteur de l'attentat de la Nouvelle-Orléans, au profil, on le verra, assez erratique, citoyen américain, vétéran de l'armée, en prise à des difficultés personnelles, mais a priori sans aucun signe fort qui aurait pu témoigner de sa radicalisation. L'actualité en France, et notamment le premier déplacement sur le terrain de Gérald Darmanin ce matin à Marseille pour sa première visite ministérielle de l'année. À suivre également le sort des 350 salariés des fonderies de Bretagne. Les élus refusent de baisser les bras et on appelle ce matin au chef de l'État. Enfin, on poursuivra notre série sur les transformations de nos grandes institutions pendant ce premier quart du 21e siècle. Aujourd'hui, on parlera de la grande muette. J'ai nommé, bien sûr, l'armée. Moins de 2 semaines après l'attaque à la voiture Bélier sur le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne, la fête s'est donc à nouveau transformée en tragédie et la vie en néant. Une attaque ignoble, c'est ainsi que le président américain Joe Biden a qualifié hier soir la tuerie la plus meurtrière survenue dans le pays depuis plus d'un an, au moins 15 morts et des dizaines de blessés, très vraisemblablement victimes d'un terroriste. Il était environ 3h du matin en pleine réjouissance du nouvel an lorsque Shamsuddin Bar Jabbar, 42 ans, a précipité sur la foule son pick-up transformé en arme de guerre, farouchement déterminé à faire du quartier touristique le plus emblématique et chaleureux de la Nouvelle-Orléans une scène d'horreur, un véritable carnage. Une fois son véhicule immobilisé, l'homme ouvrira d'ailleurs encore le feu avant d'être finalement abattu par la police. Dans sa voiture, les enquêteurs retrouveront 2 engins explosifs artisanaux et un drapeau du groupe terroriste État islamique. Virginie Pierronneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, beaucoup de questions se posent toujours ce matin, et notamment quant aux mesures de sécurité prises par la ville. Selon la maire, les bornes en acier destinées à empêcher les véhicules de s'engager dans les rues très fréquentées n'étaient pas en place au moment de l'attaque. Celle-ci était en cours de réparation avant le Super Bowl que la ville doit accueillir le mois prochain. Et puis, sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos indiquent que l'homme était inspiré par l'organisation djihadiste et qu'il avait un désir de tuer. Quand s'était-il radicalisé ? L'enquête se poursuit, d'autant Virginie que la police ne pense pas que le suspect ait agi seul.
Oui Thomas, pour le FBI, il est possible que Shamsuddin Jabbar ne soit pas le seul responsable. Âgé de 42 ans, les enquêteurs s'intéressent à son profil. Il s'agit donc d'un ressortissant américain du Texas, ancien militaire de l'armée de terre, diplômé en informatique et converti à l'islam selon ses proches. Je cite, à un jeune âge, son frère parle d'une forme de radicalisation. Alors c'est le président Joe Biden, aux commandes encore pour 3 semaines, qui a affirmé que le tueur avait publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique et qu'il avait, je cite, le désir de tuer. Le FBI confirme qu'un drapeau du groupe djihadiste de l'État islamique a été retrouvé dans la voiture, alors qu'il est des recherches et des perquisitions sont toujours en cours à la Nouvelle-Orléans ainsi qu'au Texas.
Et puis parallèlement donc à cet attentat, les autorités cherchent à savoir si cet acte odieux aurait une quelconque connexion possible avec une autre attaque survenue elle, quelques heures plus tard, à Las Vegas, un pick-up de la marque Tesla d'Elon Musk, allié du nouveau président élu, a explosé devant l'entrée de l'hôtel où le nom de Trump s'affiche en grand, faisant un mort. Pour l'heure, Virginie, la piste privilégiée semble plaider pour une tragique coïncidence.
Oui, ça s'est passé quelques heures seulement après l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Une Tesla Cybertruck au look futuriste a explosé devant la Trump Tower de Vegas. Le conducteur de la voiture a été tué sur le coup. 7 personnes qui se trouvaient à proximité ont été légèrement blessés. Dans le coffre, les enquêteurs ont dit avoir retrouvé des résidus de bidons d'essence, de carburant et de gros mortiers de feux d'artifice. Alors existe-t-il une connexion entre cette explosion et ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans ? C'est désormais ce que les autorités cherchent à déterminer. Dans les 2 cas, les véhicules en cause ont été loués par l'intermédiaire d'une seule et même application de covoiturage. L'entreprise du nom de Touro dit collaborer avec les autorités. Mais à cette heure, il semblerait, Thomas, que ce soit le seul et unique lien entre les 2 événements. C'est en tout cas ce qu'en dit le FBI, qui assure quand même continuer à enquêter sur tous les aspects de cette seconde affaire.
Merci Virginie Pierronneau. Alors cet attentat à la Nouvelle-Orléans pose évidemment la question de la résurgence du groupe État islamique, ou plutôt de celle de savoir comment cette organisation d'idéologie salafiste devenue assez largement embryonnaire continue malgré tout d'inspirer et même de susciter des vocations terroristes. Christian Chéneau a posé la question à l'islamologue Abdelhassem Al-Difraoui.
c'est une idéologie très bien enracinée. L'ultra-violence de l'État islamique reste un modèle. Et même si l'État islamique est défait largement en Irak, mais encore présent en Syrie, il y a des branches de l'IS comme la branche au Khorasan, donc un terme historique pour une partie de l'Afghanistan, qui sont très actifs et qui donnent encore l'exemple à travers leur propagande, avec des attentats spectaculaires qui n'ont pas forcément touché l'Occident. Mais surtout, cette idéologie de l'ultra-violence a fait des émules. Donc, des attaques pas chères qui font un maximum de dégâts. Ils ont encore une propagande, surtout dans les messageries cryptées, etc. Mais à toute façon, il y a tout un corpus de propagande qui est présent et qui est présent dans la mémoire des gens.
Donc finalement, l'attaque de la Nouvelle-Orléans, ça vous a pas beaucoup surpris?
En fait, c'est toujours surprenant parce qu'on espère que ça s'arrête. Mais il faut s'attendre à ces genres d'attaques encore pendant des années, voire des décennies.
Alain Abdel Hassiem Al-Difraoui, spécialiste de l'islam radical, il répondait à Christian Chesneau.
12 morts, dont 2 enfants et 4 blessés, c'est le dernier bilan d'une fusillade au Monténégro.
La nuit dernière, un homme âgé de 45 ans, armé et ivre, a ouvert le feu après une altercation dans un restaurant avant de se suicider d'une balle dans la tête alors qu'il était cerné par la police. Un drame à l'issue duquel le Premier ministre a annoncé dès hier soir un deuil national de 3 jours. Alors cette dispute familiale qui aura tourné en fusillade et sans lien, a priori, avec le crime organisé qui sévit dans la région, questionne malgré tout Nathanaël Charbonnier, la place dominante des armes dans le petit pays des Balkans.
Alors la police a indiqué qu'Aleksandar Martinovic, c'est le nom du tueur présumé, avait déjà été arrêté par le passé pour détention illégale d'armes, car c'est l'un des problèmes de ce Monténégro, pays grand comme l'Île-de-France, où l'on compte pas moins de 245 000 armes à feu en circulation pour seulement 630 000 habitants, soit une arme pour 2 ou 3 personnes, une spécificité due aux vestiges de la guerre des Balkans. Mais ce surarmement local n'explique pas tout. À cela s'ajoute le crime organisé qui gangrène le pays, car c'est la vraie plaie du Monténégro qui doit batailler avec les mafias en tout genre, dont certaines russes qui descendent jusque-là. Le Monténégro, un repère de clans mafieux où les règlements de comptes sont monnaie courante. En juin dernier, par exemple, 2 personnes sont mortes dans une explosion attribuée à un groupe criminel. Il faut dire que parmi les victimes se trouvaient des membres d'un gang connu des autorités. Tout comme en septembre dernier, où un autre membre d'un clan mafieux a été tué par un sniper alors qu'il était assis dans son jardin.
Comment imaginer qu'Israël pourrait intensifier davantage encore ses frappes sur la bande de Gaza réduite à un champ de ruines? C'est pourtant la menace formulée hier par l'État hébreu après que des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne ont repris ces derniers jours, causant très peu de dégâts. Hier, au moins 8 personnes ont été tuées dans des bombardements en banlieue est de la ville de Gaza, 17 autres dans des frappes sur un camp de réfugiés et encore 11 personnes, parmi lesquelles 3 enfants et 2 femmes, après le bombardement d'une tente abritant des personnes déplacées. Pour la 3e journée consécutive, le président déchu sud-coréen, retranché dans sa résidence, résiste toujours à son arrestation, promettant de se battre jusqu'à la fin contre les autorités qui cherchent à l'interroger sur sa tentative avortée d'imposer la loi martiale. Début décembre, le désormais ex-chef d'État avait envoyé l'armée au Parlement pour tenter de museler les parlementaires, un épisode qui avait aussitôt réveillé les heures les plus sombres de la dictature militaire. Le bureau d'enquête qui s'entraîne réalise aujourd'hui les investigations sur ce coup de force jusqu'à lundi pour exécuter le mandat d'arrêt.
Il est 12h38, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Gérald Darmanin est en visite à Marseille depuis ce matin. Le désormais ministre de la Justice vient y évoquer notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants, et ce après avoir récemment annoncé qu'il souhaitait l'isolement renforcé des 100 narcotrafiquants les plus dangereux détenus en France. Alors face au fléau de cette activité criminelle, il en est certain qu'ils se sentent tout particulièrement désœuvrés, ce sont les maires, et c'est d'ailleurs l'un des sujets sur lesquels ils ont tenu à interpeller l'exécutif il y a déjà quelques semaines au congrès de leur association. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que l'évolution des modes d'approvisionnement et de distribution, mais aussi de consommation, a des conséquences directes pour les édiles qui se sentent, je le disais Rosalie, parfois un peu démunis face à un tel phénomène.
Oui, avec des conséquences en matière de santé, de corruption d'acteurs locaux, de sécurité publique aussi, bien sûr, relève Jean-Paul Vermeaux, maire socialiste de Morlaix.
On voit dans la rue une violence beaucoup plus accrue, notamment avec la consommation de cocaïne et de substances MDMA. On voit le crack arriver alors qu'on avait quelquefois plutôt avec le hashish et l'herbe un endormissement. Et il y a quelques temps, quand on était confronté à des problèmes de sécurité, on disait « mais que fait l'État ? Que fait la police ou la gendarmerie ?» À l'heure actuelle, on est systématiquement confronté à la même remarque. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire ?
Et souvent, il aimerait avoir plus de leviers pour agir, le maire. C'est en tout cas ce que réclame le président LR de l'Association des maires de France, David Lisnard.
Qu'on ait des moyens, nous, pour peut-être expulser des dealers avérés et confirmés des logements sociaux, parce que c'est incompréhensible pour la population qu'on les regarde faire leur business et pourrir un quartier, et puis qu'on puisse mieux intervenir contre le détournement des locaux commerciaux à des fins de blanchiment.
Or, en la matière, le maire est souvent la meilleure source d'informations, pas toujours bien exploitée, selon le sénateur LR Étienne Blanc. Il est rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic en France.
Il faut que les services d'État comprennent le rôle essentiel des maires, qui peuvent être des informateurs de premier ordre. Le maire, il connaît sa population, il connaît les quartiers, il connaît les immeubles, il connaît les familles, il connaît les difficultés.
Un appel à s'appuyer sur des maires de plus en plus nombreux à être concernés. Il y a une extension territoriale du problème, assure le président socialiste de cette même commission sénatoriale. La France des sous-préfectures et des villages, dit-il encore, est maintenant touchée, et plus seulement celle des grandes métropoles.
Merci Rosalie Lafarge. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, sera présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine et non pas demain comme prévu initialement, ce qui ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur son examen au Parlement qui reprendra ses travaux le 13 janvier.
Comment sauver les 350 salariés des fonderies de Bretagne ?
Dans une lettre ouverte adressée aux présidents syndicats et élus, alerte ce matin Emmanuel Macron sur le sort des employés de l'usine de Caudan près de Lorient, menacée de fermeture et ainsi éviter également que cette entreprise emblématique du Morbihan ne devienne le symbole de la désindustrialisation du pays. Alors parmi les signataires, on retiendra notamment la secrétaire générale de la CGT ou bien encore le président de la CFE-CGC, mais en réalité, cette lettre est d'abord et surtout portée par des élus de Bretagne pour qui... Cette bataille, Wafia Kenich explique un enjeu fondamental dans ce bassin d'emploi.
Dans le viseur des signataires, Renault. Les fonderies de Bretagne ont été construites pour et par le constructeur auto dans les années 60 pour fabriquer des pièces pour ses véhicules. En 2022, cette filiale historique de Renault est vendue à un fonds d'investissement, alors qu'à l'époque déjà, les acteurs du marché alertent sur les faiblesses de ce projet, principalement sur le fait qu'aucune marge de manœuvre financière n'est prévue pour diversifier le carnet de commandes. Car le piège est là, les fonderies dépendent entièrement de Renault. Prenant le sujet à bras-le-corps, la direction des fonderies met en place une équipe commerciale pour chercher de nouveaux clients. Agriculture, défense, mobilier urbain, ferroviaire, peu importe le secteur. Cette mobilisation paye puisqu'un nouvel investisseur est trouvé, un fonds allemand, une porte de sortie pour ne plus dépendre de Renault. Depuis l'État, la région, l'agglomération, tout le monde s'y est mis pour apporter une solution politique et financière aux fonderies et rendre possible ce nouveau projet industriel. Mais voilà, 4 jours avant Noël, après 6 mois de négociations, Renault annonce son refus de garantir, pendant quelques années seulement, des commandes pour soutenir les fonderies. Le constructeur délocalise sa production en Turquie, en Espagne et au Portugal. L'usine perd ainsi son potentiel investisseur allemand. Si le président de la République n'intervient pas, écrivent les signataires de cette lettre, les fonderies de Bretagne deviendront le symbole de la désindustrialisation du pays et de l'impuissance de l'État. Pour mémoire, Renault a réalisé un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros en 2023 et perçu 248 millions d'aides publiques.
Toute la semaine avec nos invités, nous nous intéressons, vous le savez, aux changements qu'ont connus les grandes institutions du pays pendant ce premier quart du 21e siècle. Aujourd'hui, regard sur l'évolution de l'armée française. On en parle avec un historien, chef du département des études et de la recherche de l'Institut des hautes études de défense nationale, Guillaume Lascon-Jarias, répond à Diane Berger. Il est l'invité de la rédaction.
Bonjour Guillaume Lascon-Jarias.
Bonjour.
Si l'on prenait une machine à remonter dans le temps pour aller au début des années 2000, pour regarder à quoi ressemblaient les armées de l'époque, il y a un changement qui nous sauterait aux yeux immédiatement. C'est la fin du service militaire, voté en 97, entré en vigueur définitivement en 2002. Quel changement est-ce que cela a créé ?
En réalité, le cadre général est beaucoup plus large. Et quand vous citez la nécessaire transformation des armées vers ce qu'on appelle la professionnalisation, c'est parce que cela part d'une forme de réalisation qu'il n'y a plus à l'époque de menaces aux frontières, mais plus de frontières aux menaces. Et pour ça, on a besoin finalement d'avoir une armée professionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une armée professionnelle ? C'est finalement la fin ou l'acceptation de que l'on a terminé ce modèle qui était hérité des guerres nationales, qui était fondé sur la masse, l'importance aussi de disposer de soldats qui seront peut-être moins nombreux, mais mieux entraînés et capables d'être engagés sur très faible préavis. Et donc, on a cette transformation profonde de l'armée de terre. En 1990, l'armée de terre, c'est plus de 300 000 hommes à peu près. Aujourd'hui, c'est 110 000 militaires, 8 000 civils, 26 000 réservistes. Et depuis 1962, l'armée de terre, là encore, mais les armées en général, ont connu une déflation importante, divisée par 5,5.
Et alors, vous l'avez dit, on est dans une phase où il n'y a plus de menace aux frontières, mais plus de frontières à la menace. Est-ce que c'est aussi cela qui explique un autre grand changement de l'armée sur les 25 dernières années, qui est le développement d'un modèle plutôt expéditionnaire ?
Oui, tout à fait. En fait, on part d'une armée qui était d'abord tournée vers l'Est, depuis quasiment la période napoléonienne, hein. Et le 19e siècle vers les menaces venant d'Allemagne, puis potentiellement du domaine soviétique. Et avec la fin, non seulement du mur de Berlin, mais aussi la transformation des exigences opérationnelles, on a une armée de terre qui, finalement, et puis des armées qui se projettent. On a d'une armée de protection à une armée de projection, finalement. Cela veut dire qu'on va avoir des armées qui vont aussi être à la fois en métropole, mais aussi dans les Outre-mer, avec les forces de souveraineté, les forces de présence, avec les pays avec lesquels on a des partenariats stratégiques. Et puis, on a des armées qui sont très largement engagées. À titre d'exemple, le tempo opérationnel s'accélère dans les années 2000, avec la succession aussi des opérations lourdes qui nécessitent aux armées de s'engager. L'opération, bien évidemment, auprès de l'ISAF, la Force Internationale d'Assistance et de Sécurité en Afghanistan. On pense bien évidemment à l'opération Barkhane au Mali. Et puis, plus récemment, aux engagements au service de nos compatriotes d'outre-mer. C'était déjà le cas lors des événements, on va dire, des années 2016, 2017, avec la nécessité de projeter des forces vers les outre-mer pour répondre à des phénomènes type cyclone ou phénomène naturel, mais c'est aussi le soutien de ces armées à la population pendant la crise du Covid.
Mmh. Mais on parlait de Barkhane et justement les partenariats militaires avec les pays africains sont de plus en plus remis en cause et la guerre est revenue dans l'Est de l'Europe en Ukraine. Est-ce le signe de la fin de ce modèle expéditionnaire ?
Je ne crois pas. Je pense qu'en réalité, la nécessité d'être capable de lier nos destins à ceux, finalement, parce que c'est aussi cette troisième grande phase d'adaptation dont on peut parler, c'est la nécessité de répondre encore plus présent aux exigences des alliances et des coopérations. C'est à la fois le cas pour les opérations en dehors du territoire national, mais c'est aussi le cas pour notre pleine réintégration dans une alliance comme l'OTAN. J'en veux pour preuve, 2009, c'est le moment où la France réintègre pleinement l'Alliance Atlantique, le commandement militaire intégré de l'Alliance, et à qui on confie finalement le deuxième commandement stratégique de l'Alliance, celui qui est situé à Norfolk, avec un marin français qui est à sa tête. Donc on a cette nécessité de participer plutôt à des alliances, à des coopérations, et c'est d'ailleurs de manière très significative qu'en 2022, au début de la guerre d'Ukraine, c'est un bataillon français renforcé d'une composante belge qui intervient au titre de ce qu'on appelle la force interarmée à haute projection, la Very High Readiness Joint Task Force, en jargon otanien, qui est projetée en Roumanie pour sécuriser le flanc sud de l'Alliance.
Merci beaucoup, Guillaume Lasconjarias.
Merci à vous.
Voilà, Guillaume Lasconjarias, donc chef du département des études et de la recherche de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il répondait à Diane Berger. La bourse de Paris évoluait sans grand entrain ce matin dans les premiers échanges de sa toute première séance de l'année, et ce avant la publication de plusieurs indicateurs d'activité en Europe, mais aussi la publication à venir des chiffres de l'emploi aux États-Unis. En attendant, l'euro est retombé à un plus bas depuis plus de 2 ans face au dollar. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par une perturbation pluvieuse qui traversera la majeure partie du pays d'ouest en est. Seul l'extrême sud conservera un ciel lumineux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.